d'entre vous, alors ne dites pas laquelle, mais qui d'entre vous a pris une bonne résolution le 1er janvier ? On est à peu près 30, ouais, ça fait quelques 10% de la salle a pris une bonne résolution le 1er janvier. Une question un peu plus personnelle, nous sommes le 9 janvier, mais parmi ceux qui ont pris une bonne résolution, qui sont ceux qui ont réussi à la tenir ? Waouh ! Alors effectivement, qui a réussi à persévérer au moins quelques jours ? Ça va le son, c'est pas trop fort ?
Ça dépend du type de résolution.
Faire des grasses maths tous les matins, facile à tenir. Quelles sont les résolutions, et là j'ai quels sont un peu les stéréotypes, quelles sont les résolutions les plus souvent prises ? Alors ne nous dévoilez pas la vôtre, mais de manière générale. Pardon, le ?
Le poids.
Le poids, voilà, faire plus attention et perdre des kilos en 2022.
La cigarette,
c'est arrêté, tout à fait.
Lire sa Bible. Faire plus de sport.
Rémi, c'est quoi les bonnes résolutions ? Faire ses devoirs tous les jours. Ça, c'est une résolution que ta maman prend pour toi, ça, c'est autre chose.
Essayer d'être moins parfait.
Je sais que c'est compliqué pour toi, Kevin. Ce matin, je vous propose de voir en Néhémie 10, je vous propose de voir dans le chapitre 10 de Néhémie, comment le peuple d'Israël a su lui aussi prendre des bonnes résolutions. Et nous sommes à l'hiver -441 environ. Nous sommes à l'hiver -441. Et pour eux, il ne s'agissait ni de sport, ni de sortie du boulot, ni de cigarettes. Mais ils ont pris la résolution d'avoir des vies transformées par Dieu. Et plus précisément, on va voir à travers eux pourquoi avoir des vies transformées, avec qui avoir des vies transformées et comment avoir des vies transformées. Et ma prière finale, vous l'aurez compris, sera qu'à la fin, nous puissions nous aussi prendre cette bonne résolution que d'avoir des vies transformées aujourd'hui à Cavaillon. Première partie donc. Et non, avant de se lancer dans Néhémie 10 et de répondre à notre première question, pourquoi avoir des vies transformées, il faut se remettre en tête un minimum le contexte de Néhémie. C'est un livre que je parcours avec vous désormais depuis début septembre, mais voilà, tous n'ont pas été là, donc tout le monde, quand on dit Néhémie 10, on ne se dit pas tout de suite « on en est là dans l'histoire ». En deux mots, est-ce que, petit ou grand, vous en souvenez à peu près de quoi parle le livre de Néhémie ? Pour ceux qui... Noé ?
Néhémie parle de révertir Jérusalem. C'est un peuple qui avait été exilé.
Un peuple qui avait été...
Déporté, pardon, pas exilé, mais déporté.
Ouais.
Donc Néhémie était chanson du roi dans une autre ville, qui devrait être assassiné, si je ne me trompe pas du nom. Et il a appris la nouvelle de Jérusalem qui est en ruine.
Ouais, chapitre 1 et 2, Néhémie, il apprend et il décide de revenir. Alors pourtant, il avait une situation où il était tranquille et il décide de revenir. Chapitre 1 et 2.
Donc il décide de revenir, de repartir et de mobiliser d'abord l'ensemble de...
Tout le monde, voilà. Il fait chapitre 3 et 4, le magnifique chantier de Jérusalem. Tout le monde sur la muraille, une épée, une truelle et tout le monde qui bosse, petits et grands. Chapitre 3 et 4. Chapitre 5. Le chantier se finit, quelques tensions, mais ça se finit. Chapitre 7, la ville, elle est nickel. Tout va bien. Et là, il y a un deuxième chantier qui commence.
Donc, ils ont décidé de rétablir l'hôtel aussi, le tabernacle.
Tout à fait.
De rétablir la maison de Dieu.
Voilà. Au chapitre 8, la première moitié du livre de Néhémie, c'est la reconstruction de la ville. Et le deuxième chantier de la deuxième moitié de Néhémie, c'est le chantier de la reconstruction du peuple.
Ils ont fait la lecture du livre public
et tout ce qui était en 4 heures durant debout. Alors, je vous mets au défi de faire ça quelques
et ils se sont rappelés de la fête
des tentes et ils redécouvrent la Bible. Waouh, zut, il faut faire la fête des tentes, c'est aujourd'hui. Allez, on y va, on fait la fête des cabanes, on y va. Chapitre 9. Yann Newberry était là en novembre, nous a invités à la reconnaissance. Chapitre 9, un chapitre magnifique où le peuple se rappelle de sa propre infidélité en contraste avec la fidélité de Dieu à travers les générations. Et le chapitre 9 est un bouquet de reconnaissance à Dieu. Vous vous en souvenez ? Merci Noé, ta mémoire est... Chapeau. Et donc nous voilà au chapitre 10 de Néhémie. Nous voilà au chapitre 10 de Néhémie, donc voilà tout ça, un peu le contexte. Et je vous propose d'en lire le début pour notre première partie. Alors je vais avoir besoin d'aide pour ceux qui sont experts en phonétique de prénoms hébraïques. Je vais avoir besoin de votre aide. À cause de tout cela, verset 1, Néhémie 10, verset 1, à cause de tout cela, nous avons conclu un pacte et nous avons mis cela par écrit. Nos chefs, nos lévites, nos prêtres y ont apposé leur empreinte. Voici la liste des signataires. Néhémie, fils de Hakalia, le gouverneur Sédécias, Seraja, Azaria, Jérémie, Pachour, Amaria, Malkija, Atouche, qui veut continuer ? Ça dure encore 25 versets comme ça. Je vous les épargne. Il y a 25, si vous le regardez, jusqu'au verset 28, ce n'est que des prénoms, alors nous qui nous paraissent un peu rigolos, un peu durs à prononcer, mais 20, voilà, on a 25 versets de personnes qui ont mis. C'est Baptiste, c'est Tom, c'est Pierre-Éric, c'est Adam, c'est Ali, c'est, voilà, toute la liste elle est là. Voilà ceux qui se sont engagés. Verset 29, le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, y compris leurs femmes, les fils, leurs filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre, ont apporté leur soutien aux frères les plus influents. Ils se sont engagés sous peine de malédiction. Waouh ! Ils se sont engagés sous peine de malédiction et avec serment à marcher suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter, à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. Waouh, pas mal, hein ? Alors si vous avez pris, voilà, aux 10% de la salle qui ont pris une bonne résolution le 1er janvier, quelle a été votre motivation pour faire cela ? Pourquoi l'avez-vous prise ? Quand on prend une bonne résolution, pourquoi on la prend ? Est-ce que c'est pour être en meilleure santé ? Est-ce que c'est pour être une meilleure personne ? Est-ce que c'est par culpabilité ? Je devrais arrêter. Est-ce que c'est pour ressembler à telle ou telle personne ? Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde ? Et si nos résolutions de janvier n'atteignent que rarement le mois de février, c'est que parfois les motivations sur lesquelles elles sont basées sont bancales. Donc si la motivation est bancale, forcément la persévérance va manquer. Néhémie 10 nous montre l'exemple d'un peuple qui s'engage, qui prend plein de bonnes résolutions, et on les verra en détail plus tard lesquelles, mais surtout qui prend ses engagements pour la meilleure des motivations. Est-ce que vous avez vu laquelle ? Est-ce que vous avez vu laquelle ? Pourquoi ils font ça ? Quelle est leur motivation ? Le Seigneur. Et dans le texte, il y a trois mots qui se courent après, tout petits, mais qui sont les mots les plus puissants du passage. Verset 1, le tout début. À cause de tout cela. À cause de tout cela. C'est pas on a pris un pacte, on n'avait pas parce qu'on a pris un engagement, parce qu'on s'ennuyait et on avait envie d'être... Non, c'est à cause de tout cela. À quoi fait référence le « à quoi tout cela » ? Au chapitre 8 et 9, où le peuple redécouvre la loi de Dieu, redécouvre qui est Dieu, redécouvre la fidélité dont ils ont été au bénéfice siècle après siècle. À cause de tout cela, le peuple a pris un engagement. À cause de tout cela, le peuple ne peut pas rester les bras croisés comme si de rien n'était. Quand on réalise qui est Dieu, quand on réalise à quel point il nous aime, quand on réalise à quel point il est bon, parfait, compassion, trois fois saint, quand on réalise cela, on ne peut pas rester les bras croisés comme si de rien n'était. Et on est ici en fait au cœur de l'évangile. On est au cœur ici de l'évangile avec un Dieu qui est fidèle, qui maintient sa fidélité, qui prend l'initiative de redonner vie à son peuple. Et au cœur de l'évangile, parce qu'il y a en même temps le mouvement de Dieu, et en retour, un peuple qui veut obéir, un peuple qui veut écouter, comprendre et s'engager. Un peuple qui veut répondre à la fidélité de Dieu dont il a été au bénéfice. C'est une définition de l'Évangile, hein. On est dans l'Ancien Testament, mais voici une belle illustration de l'Évangile. Et voici la meilleure des motivations que le peuple nous propose, celle de répondre à la fidélité de Dieu dont il a été au bénéfice. Et la seule motivation valable, durable, elle n'est pas trouvée en nous, dans nos forces, nos projets, mais elle se trouve en Dieu et en Dieu seul. Voilà le verset le plus important de ce chapitre. À cause de tout cela, nous avons pris un pacte. À cause de tout cela. Alors aujourd'hui, prendre un pacte, prendre un engagement, ça peut paraître un peu... D'ailleurs, 90% d'entre nous ne l'ont pas fait. Donc ça peut paraître un peu futile, un peu mignon, un peu ringard de prendre une bonne résolution. Dites à votre collègue, dites à votre copain au collège, au lycée que vous avez pris des bonnes résolutions. Bon, un petit sourire, hein. Bon, il y a le masque, on ne le voit pas, mais un petit sourire, c'est un peu à quoi bon prendre un engagement, c'est un peu, on sait très bien qu'en février, c'est fini. Regardez ici le peuple, non seulement il prend un pacte, mais verset 30, il s'engage sous peine de malédiction. Qui d'entre vous a déjà pris une résolution en disant que je sois maudit si je ne tiens pas cette résolution? Moi perso, j'ai jamais osé dire cette phrase-là. Mais imaginez ça. Non seulement ils prennent un pacte, mais ils demandent à ce que la malédiction soit sur eux s'ils ne s'y tiennent pas. Waouh! Prendre un tel engagement, aussi fort, un tel pacte, ça peut paraître aujourd'hui, nous, un peu ringard, un peu futile. Au XVIIIe siècle, les enfants, c'est pour vous, Jonathan Edwards a commencé sa vie chrétienne à 19 ans. Et vous savez combien il a pris de résolutions pour sa foi chrétienne? 70. Et on trouve un très beau texte, on vous le mettra à l'occasion, un texte où il prend devant Dieu 70 bonnes résolutions pour sa vie chrétienne. Il a 19 ans, hein. Donc bah, voilà, excusez du peu, il a 19 ans. Et il conclut en disant... Je supplie humblement Dieu par sa grâce de m'aider à garder ses résolutions, autant qu'elles lui soient agréables à sa volonté pour l'amour de Christ. Waouh ! 70 bonnes résolutions. Prendre un tel engagement peut paraître démesuré, peut paraître un peu fou, mais sauf si c'est pour la bonne raison. À cause de tout cela, nous avons conclu un pacte. Nous aussi qui avons été aimés par Dieu, et qui le sommes encore aujourd'hui, nous qui sommes, qui avons été pardonnés et qui aimons chanter notre confiance et notre reconnaissance à Dieu, comme on l'a fait en première partie du culte, choisissons nous aussi d'avoir des vies transformées. Choisissons nous aussi d'avoir des vies transformées. Et si Jonathan Edwards a pris tout seul ses 70 résolutions comme un grand, qui prend dans notre texte de Néhémie 10, qui prend cet engagement? Avec qui avoir des vies transformées? C'est notre seconde partie. Et vous l'avez vu, la liste, hein, elle est comme ça. Il y a des noms tout aussi compliqués à dire, mais ça témoigne de quoi? Ça témoigne qu'ils ont pris ces engagements ensemble. C'est pas chacun dans son coin qui dit « Allez, c'est parti ». Non, ils l'ont pris ensemble. Le peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs, le reste du peuple, petits, grands, enfants, filles, garçons. Ensemble, ils ont pris cet engagement. Prendre un engagement tout seul dans son coin est une chose, le prendre avec ses frères et sœurs en est une autre, bien plus solide, bien plus costaude. Si vous vous dites, ce mois-ci, cette année 2022, je vais me mettre au sport et j'irai courir tous les jours, vous vous dites ça tout seul. Demain matin, il y a du mistral, il fait froid. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est mal parti, hein. Si au moins vous êtes deux, alors c'est pas magique, mais plus vous êtes, plus vous êtes, plus vous oserez partir dans le Mistral, aller courir ensemble. Et ça sera chouette. Il en est de même pour la vie spirituelle. Quand vous voyez des fois en plein hiver, là, des cavaillonnais ou des... Moi, je travaille au Grenouillet, et là-bas, le soir, il fait nuit, des fois, il y a du brouillard, et là, je vois 20 coureurs passer à la frontale, comme ça, ils courent dans le noir, ils voient rien, ils ont froid. Waouh! Voilà un bel exemple de à quoi devrait ressembler l'Église. Ensemble, on tient. Tout seul, il faut vraiment être... faut s'appeler Jonathan Edwards. Mais si on ne s'appelle pas Jonathan Edwards, restons ensemble. et faisons ensemble. Et on touche aussi ici le privilège d'être en Église. En fait, l'Église, c'est un privilège, c'est une grâce de Dieu, c'est pas qu'un prétexte pour mettre le réveil le matin, comme Adam a dû le faire ce matin. L'Église, c'est chouette, ça permet d'être ensemble, parce que sinon, on est complètement perdu. Et quand on parle des groupes de partage, des groupes de femmes, des groupes d'études, c'est un privilège. Vous connaissez l'image, peut-être les enfants, de la braise dans la cheminée. Si vous imaginez le foyer de la cheminée, là, l'hiver, vous prenez une braise et vous l'éloignez. Vous la mettez sur le côté. Qu'est-ce qui va se passer ? Louis ?
Elle va s'éteindre.
Bah ouais. Bah oui, il n'y a rien de... Elle va s'éteindre. Au contraire, même quand... Alors, elle s'éteint, et là, si vous la remettez contre le foyer principal, elle se rallume. Non seulement elle se rallume elle-même, mais elle donne de la chaleur, et elle aide les autres, elle aide ses copines, à brûler aussi. Et voilà. Voilà à quoi ressemble l'Église. C'est un privilège d'être en Église. Donc si... Pour 2022, vous souhaitez prendre une résolution, un engagement, prenez-le avec un frère en Christ, prenez-le avec une sœur en Christ. Ne le prenez pas tout seul dans votre coin, sauf si vous vous appelez Jonathan Edwards. Mais prenez-le avec un frère et une sœur. Soyez redevables, relevez-vous, encouragez-vous, motivez-vous. Pourquoi avoir des vies transformées ? À cause de tout cela, à cause de l'Évangile. C'était notre première partie. Avec qui avoir des vies transformées ? Ensemble, en Église. C'était notre deuxième partie. Et comment avoir des vies transformées, c'est notre troisième partie. Je suis assez scolaire, excusez-moi. Et je vous propose de lire les versets 31 à 34 pour la suite du livre de Néhémie. Cette fois-ci, il n'y a pas de prénom bizarre à lire, donc on va les lire en entier. Néhémie 10, 31 à 34. Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays, à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils, à ne leur acheter le jour du sabbat et les jours de fête aucune des marchandises ou des céréales qu'ils amèneraient le jour du sabbat pour les vendre, à respecter le répit de la septième année et à renoncer au paiement de toute dette. Verset 33, nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous nous obligeons à donner 4 grammes d'argent par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains consacrés, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, pour les débuts de mois et des fêtes, pour les éléments consacrés, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour toute l'activité de la maison de notre Dieu. À quoi bon redécouvrir la parole de Dieu ? À quoi bon confesser notre confiance et notre reconnaissance, si ce n'est pas pour avoir des vies transformées? Ça sert à rien. À quoi bon avoir les chapitres 8 et 9 de Néhémie s'il n'y a pas le chapitre 10 qui suit? Blablabla, merci Seigneur, blablabla, et derrière, pas des vies transformées. C'est Néhémie 10, quoi, Néhémie 10, c'est super précieux. Sans ça, les chapitres 8 et 9, c'est des grands discours, mais ça s'arrête là. À quoi bon confesser, chanter des cantiques dimanche après dimanche, si ce n'est pas pour avoir des vies transformées? Néhémie 10 va avec Néhémie 8 et 9. Et dans ce chapitre, on voit le peuple s'engager dans trois domaines concrets et précis. Trois domaines que l'on va voir. Premier domaine, vous l'avez vu, le peuple s'engage à ne plus se marier, à s'associer avec les peuples avoisinants. Alors ça avait été effectivement demandé plusieurs fois par la loi de Moïse, en Deutéronome 7 par exemple. Pourquoi ? Non pas que les peuples aux alentours sont moins bien, hein. Non pas que les peuples aux alentours sont des mauvais conjoints ou ne savent pas élever des enfants. C'est pas ça la raison, hein. Absolument pas. Mais ces peuples, ils ont d'autres dieux, d'autres rites, des idoles, d'autres objectifs, d'autres règles de vie. Et Dieu, ayant horreur d'idolâtrie, et voulant que son peuple à lui soit à lui justement. Voilà pourquoi les mariages avec les autres peuples étaient interdits par la loi. Et donc voilà pourquoi le peuple se réengage dans Néhémie 10 dans ce domaine précis. 2500 ans plus tard, quelle application pour nous, Français, Cavaillonnais? Est-ce qu'il donc interdit de se marier à un étranger, un Belge, une Allemande, une Suisse? Non, c'est pas ça. Comment appliquer ce texte? Là, on est sur une question d'interprétation de la Bible. Est-ce qu'il faut l'interpréter de manière directe? Évidemment que non. On a bien compris que c'est pas ça dont il s'agit. Est-ce que Néhémie 10, dans ces cas-là, on se dit « Oh, bah, c'est bon, ça, c'était pour le peuple, et on met Néhémie 10 de côté. » Non plus, évidemment. Dans ces questions-là, et on touche sur une question d'interprétation de la Bible, il faut regarder le principe. Quel est le principe qu'il y a derrière le commandement, et dans quelle mesure le principe peut s'appliquer à nous? Et c'est d'ailleurs ce que Paul fait, l'apôtre Paul, et il étend ce principe au mariage entre chrétiens et non-chrétiens. Et il le fait longuement dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Alors, à part le cas très précis où il y a un des deux conjoints qui se convertit après le mariage, mais de manière générale, Paul déconseille, pour ne pas dire interdit, il déconseille le mariage entre un chrétien et un non-chrétien. Alors, c'est pas de l'intolérance, comme on aimerait aujourd'hui, on crierait tout de suite à l'intolérance en entendant ça. C'est pas de l'intolérance, c'est du pragmatisme. C'est du pragmatisme. Comment une personne, et là on comprend, hein, comment une personne qui confesse le nom de Jésus-Christ, qui veut être disciple de Jésus-Christ, comment une personne qui prétend avoir offert toute sa vie à Jésus-Christ peut-elle en même temps s'unir et ne faire qu'une seule chair avec une personne qui n'a pas les mêmes objectifs? C'est du pragmatisme. Et tôt ou tard, le couple, c'est vrai, hein, sera mis à l'épreuve. Et le conjoint chrétien risque de se refroidir, telle la braise, toute seule. Avec Éléonore, nous connaissons malheureusement que trop de jeunes qui, ont commencé une vie de disciple, et puis finalement ont fait des choix de vie et de mariage différents, compliqués, et qui aujourd'hui sont loin de Dieu. Et on en connaît trop des exemples comme ça. Et ce commandement, donc, il a été donné à l'époque de Moïse, de Néhémie, de l'apôtre Paul, et encore aujourd'hui, ce principe reste valable. Ce n'est pas de l'intolérance ou je ne sais quoi, mais c'est du pragmatisme pour permettre à toute personne de rester fidèle dans sa foi chrétienne. Alors, quelle application à vous célibataires, à vous les jeunes, à vous qui aspirez un jour peut-être à rencontrer quelqu'un? Voilà, n'oubliez pas ce principe qui est valable depuis des millénaires. Sachez faire confiance à Dieu et ne tombez pas dans la facilité. Voilà, c'est en tout cas l'engagement que le peuple prend en Néhémie 10 et que cela puisse être également le vôtre. Deuxième domaine dans lequel concrètement il s'engage, c'est le verset 32, ça concerne le respect du sabbat. Ce jour dans la semaine où aucun achat, aucun travail ne devait être fait. Alors de nouveau, comment appliquer ça à nous aujourd'hui? Comment appliquer ça à nous aujourd'hui, au XXIe siècle? De nouveau, on remonte au principe qui se cache derrière le sabbat. Quel est ce principe? Le sabbat était là pour Dieu et pour permettre de s'arrêter à tous, au moins une fois par semaine, de prendre le temps, de s'arrêter, de se souvenir de qui est Dieu, de ce qu'il a fait, et aussi que lui s'est reposé le septième jour, d'après Genèse. Voilà le principe qui se cache derrière le sabbat. Et aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce qu'on prend ce temps? Aujourd'hui, tout va à 100 km/h. Hein. Nos semaines sont trop chargées, nos week-ends sont trop courts. À coup de WhatsApp ou de Twitter, les informations vont plus vite que notre ombre. Et nos agendas se remplissent plus que de raison. Quand prenons-nous le temps de nous arrêter devant Dieu? De nous souvenir de qui il est et de ce qu'il a fait. Est-ce que c'est 20 secondes le matin avec le feuillet du calendrier? C'est mieux que rien. Mais est-ce que ça se limite à 20 secondes au moment du calendrier? Est-ce que c'est seulement le dimanche matin, une heure, parce qu'il a fallu se lever et qu'il faut y aller? Quand prenons-nous le temps de nous arrêter devant Dieu? Psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez-vous! Et sachez, souvenez-vous que je suis Dieu. Et la tentation d'oublier, de s'arrêter devant Dieu nous concerne tous, et moi le premier. Et je me permets de vous partager ma fragilité à ce sujet. J'ai beau avoir une femme qui essaye de me, de me dire un peu d'arrêter, mais ça suffit pas toujours. À moi le premier, il nous faut apprendre à savoir nous arrêter devant Dieu, afin qu'il soit le maître non seulement de nos mariages, de nos familles, mais également de nos agendas et de notre temps. Ça concerne la suractivité, ça concerne aussi l'oisiveté et l'ennui. Dans les deux cas, Dieu est appelé à être le maître de notre temps. Dans la suractivité, comme dans l'ennui, qui peut nous concerner également. Alors, comment allez-vous en 2022 gérer votre temps? À l'image du peuple dans Néhémie 10, choisissez vous aussi d'avoir des vies transformées dans ce domaine-là en l'occurrence. Choisissons nous aussi d'avoir des vies transformées dans ce domaine. Tout dernier domaine dans lequel Dieu désire transformer nos vies, versets 33 à 34, à quoi s'engage le peuple ? Sur l'argent et sur les biens. Nous nous obligeons à donner 4 grammes d'argent par an pour le temple. Alors l'argent est un sujet un peu personnel, parfois un peu tabou, c'est pas aisé d'en parler, parfois délicat. Alors qu'est-ce que Dieu vient faire au milieu de tout ça ? L'argent, ça me concerne, c'est à moi, voilà. Pourquoi Dieu vient mettre son nez dans mes finances ? Car Dieu sait trop bien, pour reprendre les paroles de Jésus, que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Je vais le reformuler différemment. Dis-moi où vont tes dépenses. Dis-moi ce pourquoi tu économises. Dis-moi, montre-moi ton budget mensuel dans un sens où vont tes dépenses et je te dirai qui tu es. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Parce qu'en soi, Dieu, notre argent, il n'a rien à faire de notre argent. Il n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas des charges fixes à payer tous les mois. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il n'en a jamais eu besoin, ni à l'époque de Néhémie, ni aujourd'hui. Mais il sait que c'est par notre générosité que est révélée la réalité de la reconnaissance que nous proclamons et de la confiance que nous proclamons. Encore une fois, si on ne fait que des grands discours et du blabla, et Dieu sait que c'est par notre générosité que se confirme ou non la réalité de nos dires, de la reconnaissance et de la confiance que l'on proclame dimanche après dimanche. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais concrètement, en Église, quand vous donnez à l'Église, est-ce que vous le donnez parce que l'Église en a besoin ? Parce qu'il y a des factures à payer, donc on va donner. Devons-nous donner seulement en réponse à des besoins ? Sous-entendu, s'il n'y a plus de besoins, je ne donne plus. Non, de nouveau. Ce que nous, Dieu demande Dieu, c'est pas de répondre à un besoin, c'est de lui faire confiance, et c'est une question de générosité, de reconnaissance, de confiance et d'adoration. Pas répondre à des besoins. Dieu n'a jamais eu besoin des sacrifices qu'il demandait au peuple. Dieu n'avait pas besoin de manger. Tous les sacrifices qu'il avait besoin tous les mois, c'était pas pour lui. Mais c'était pour montrer la réalité de la confiance et de la reconnaissance que nous proclamons. Alors il n'est jamais aisé en Église. Alors je ne suis pas le trésorier, donc ça va, mais il n'est jamais facile en Église de parler concrètement d'argent. Mais c'est une réalité dans nos vies. Et en tout cas, le peuple d'Israël en Néhémie 10 veut remettre ce sujet en priorité. Combien il s'engage à donner ? 4 grammes par an. J'ai pas réussi à faire l'analogie avec le SMIC, tu vois, à peu près à combien ça correspond. Parce que 4 grammes d'argent par an, moi ça me parle pas. Mais bah, j'ai pas réussi, j'ai cherché dans mes commentaires, j'ai pas trouvé l'analogie sur un peu l'importance de la somme que ça représente. Mais il y a quand même une remarque à faire, c'est que la loi initiale de Moïse, elle demandait combien de grammes par an ? 12 ! Oh les filous, hein ! Il propose que 4 ! Est-ce qu'il faut y voir un scandale ? Non ? Un principe. En Néhémie, comment va la situation économique au moment de Néhémie ? C'est catastrophique. C'est d'ailleurs pour ça que Néhémie est rentré à Jérusalem pour aider un peu à faire repartir tout ça. Et donc le peuple, à l'époque les ressources sont rares, c'est la crise économique, donc le peuple, avec ses moyens donc, le peuple vise 4 grammes d'argent par an. Et c'est déjà un chouette effort de sa part. Ça nous fait penser à la veuve en Marc 12 qui vient apporter 2 petites pièces. Pour elle, c'est pareil, c'est énorme. Et le peuple, pareil. Donc voilà, donc on retrouve cette notion de proportionnalité. Voilà, si on... Le but n'est pas de faire des mathématiques, mais vous voyez ce que je veux dire. 4 grammes d'argent. Alors que cela, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est qu'il faut se donner des objectifs atteignables, ambitieux. Si je prends l'engagement que je vais faire 10 heures de sport par jour sur 2022, c'est un engagement complètement illusoire à se prendre, à se donner. Pareil, si le peuple s'engage à donner 120 grammes d'argent par mois, ça ne sert à rien de prendre cette résolution. C'est mort. Au contraire, donnez-vous, peu importe, donnez-vous des objectifs ambitieux, mais raisonnables, atteignables. Et voilà, et peu importe l'objectif que vous définissez, ma prière, c'est que, et ce que je vous encourage, c'est que vous choisissiez, quoi qu'il en soit, d'avoir des vies transformées par Dieu. Romains 12, je vous encourage donc, frères et sœurs, à cause des compassions de Dieu, à cause de tout cela, le premier bloc de Romains, à cause de tout cela, je vous encourage à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Et je vous mets au défi. S'il vous plaît, ce soir, avant que le soleil se couche, alors, le soleil se couche tôt, 17h, mais bon, on va dire ce soir, avant que vous... ayez pris au moins un engagement, peu importe le domaine, un engagement concret avec Dieu pour 2022. Ne vous contentez pas de m'écouter, ne vous contentez pas de découvrir ce chapitre de Néhémie 10, mais d'ici ce soir, même les enfants, choisissez-vous au moins un engagement devant Dieu, pour 2022. S'il vous plaît, ce soir, au moment de vous endormir, vérifiez que vous en avez au moins pris un. Je compte sur vous. Et alors que nous allons faire cela, que va-t-il se passer? Est-ce que ça va fonctionner? Dans quelques semaines, je vous proposerai de lire la fin du livre de Néhémie et de voir si ça a marché pour le peuple. Je vous proposerai de voir quel fruit ça a donné pour le peuple. On regardera ensemble la fin du livre de Néhémie dans quelques semaines. Sans vouloir tout dire, parce qu'il faut quand même que je garde un peu de suspense, sans vouloir tout dire, c'est que pour le peuple comme pour nous, il va falloir de la discipline et de la grâce. De la discipline et de la grâce, mais surtout de la grâce. Surtout de la grâce. Ma prière est donc pour aujourd'hui déjà que chacun puisse repartir motivé, encouragé à prendre un engagement au moins pour Dieu pour cette année et d'avoir aussi une vie transformée en réponse à l'évangile dont nous avons été au bénéfice en Jésus-Christ. Ça c'est ma prière. Ma deuxième prière, c'est que chacun puisse repartir aussi léger et porté par la grâce de Dieu, sur laquelle j'insisterai un peu plus dans quelques semaines, promis. Mais en guise d'avant-goût, pour aujourd'hui, je me permets de finir avec un verset de l'Épître aux Romains de nouveau. Ça sera mon dernier mot, un beau verset. Romains 7. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.